rubrique de l'animal considéré comme un individu avec Éric Baratet et Elisabeth de Fontenay. La pluralité est la condition de l'action humaine. Parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître, écrit Hannah Arendt au début de La condition de l'homme moderne. Cette formule fait écho à un vieil apophthegme talmudique cité aussi bien par Emmanuel Lévinas que par Hans Jonas. Un homme frappe beaucoup de pièces de monnaie d'une seule forme et elles sont toutes identiques les unes aux autres. Mais le roi, qui est au-dessus de tous les rois, façonne chaque homme à l'image du premier homme et pourtant, aucun n'est identique à aucun autre. En lisant Biographies animales, le dernier livre d'Éric Baratet, une question vertigineuse me vient à l'esprit. Et je voudrais la poser d'entrée de jeu à mes deux invités, Éric Baratet lui-même et l'auteur du Silence des bêtes, Elisabeth de Fontenay. Les êtres humains font-ils preuve d'un narcissisme coupable en croyant que le roi, qui est au-dessus de tous les rois, leur a réservé un traitement de faveur? Ne procèdent-ils pas d'eux-mêmes avec les animaux ou avec certains d'entre eux? Le temps est-il venu de nous apercevoir que ceux-ci sont également des individus et pas seulement les représentants d'une espèce? Éric Baratet.
Oui, ça, pour faire preuve de narcissisme, c'est évident. Et depuis longtemps, nous avons toujours voulu penser l'animal en termes de catégories, l'animal, l'animalité, les animaux, voire en termes d'espèces, les chiens, les chevaux, quasiment jamais en tant qu'individu. Or, ces individus animaux, au moins pour des espèces que l'on commence à étudier, existent tout à fait. C'est finalement la grande révélation des 20 dernières années que l'on voit apparaître notamment en matière d'éthologie, chez les primatologues, chez les spécialistes des chiens, où la notion d'individu devient fondamentale. L'éthologie canine hongroise, par exemple, qui est la plus remarquable au monde, considère maintenant que le niveau individuel est le seul niveau scientifique valable. On ne peut plus penser en tant qu'espèce. Il faut vraiment aller au niveau des individus parce qu'obligatoirement, c'est comme ça qu'on comprend mieux les questions de sociabilité, les questions d'invention, de culture animale, les questions d'interaction, de stratégie, etc., etc.
Et en même temps, Éric Baratet, je vous posais une question naïve. Il est absurde ou purement démagogique de dire « j'aime les hommes ». On peut avoir pitié d'un homme qui souffre, quel qu'il soit, mais « j'aime les hommes », c'est pas possible. C'est même un homme politique ou une star qui dit « j'aime mon public ». En revanche, vous voyez une vache, vous pouvez penser que vous aimez les vaches. Vous voyez un éléphant dans la savane, oui, j'aime les éléphants. Donc cette différence existe, elle est immédiatement perceptible, elle relève du sens commun. Et donc qu'en faites-vous?
Oui, parce que lorsqu'on dit « j'aime les vaches », on a tendance à faire de les vaches un seul individu, finalement. Hein, et on se retrouve devant, on fait comme si on était devant une seule personne. Hein, donc « j'aime les vaches », que ce soit la vache noisette ou la vache brune, c'est la même chose. Alors que, naturellement, ce n'est pas le cas pour les hommes. On ne dit pas « j'aime les hommes » parce qu'on fait tout de suite la distinction.
Parce qu'ils sont beaucoup plus différents les uns des autres les vaches.
Ah bah on croit c'est qu'ils sont différents. On croit qu'ils sont plus différents. Ils sont différents, effectivement. Mais les vaches sont aussi différentes les unes des autres.
Elisabeth de Fontenay.
Il y a un problème, c'est que aimer les animaux, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut pas mettre tous les animaux sur le même plan. Du reste, Éric Baratet, dans son livre sur la guerre de 14, qui a pour titre « Bête de tranchée », fait une distinction très claire entre les compagnons de combat et les profiteurs de guerre. Les compagnons de combat, ce sont les chevaux, les mulets, les pigeons, etc. Et les profiteurs de guerre, ce sont les rats, les poux dans les tranchées. Donc, on ne peut pas mettre tous ces animaux-là sur le même plan. Il y a une gradation, une diversité dans la complexité qui fait que certains êtres vivants sont construits avec une plus grande quantité d'informations génétiques et qui sont capables de traiter une plus grande quantité de données mémorielles. Et C'est ce résultat de l'évolution auquel les éthologistes consacrent leurs travaux et qui est à l'origine de notre discussion, de notre conversation. Et c'est en ce sens qu'on peut parler des individus animaux et de la sociabilité des animaux.
Oui, mais alors là, je vais quand même persister dans l'effort pour, en effet, maintenir une différence. Celui qui, voyant dans la savane un éléphant, en conclut qu'il aime les éléphants, ou celui qui est fasciné par les vaches parce qu'il a vu des vaches, ne risque pas d'être détrompé. Et la différence d'un homme à l'autre étant tellement énorme, la généralisation est vraiment impossible. Ce n'est pas l'homme qui a composé la rhapsodie pour contralto, ce n'est pas l'homme qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, ce n'est pas l'homme qui fait du parapente, ce n'est pas l'homme non plus qui a inventé les camps d'extermination. Ce n'est jamais l'homme, c'est toujours, malgré tout, tel homme. Et je vais vous citer Rousseau à l'appui de ce que je dis, mais sans doute pour vous amener l'un et l'autre à me contredire, un texte que vous connaissez l'un et l'autre beaucoup mieux que moi, au début du discours sur les fondements et l'origine de l'inégalité, où il dit que la différence entre l'homme et la bête, c'est que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. L'un choisit ou rejette par instinct, et l'autre par un acte de liberté, ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte, souvent à son propre préjudice. Et c'est là que Rousseau, fondant donc l'humanité sur la liberté, écartant le concept de nature, parle de la perfectibilité. C'est la perfectibilité qui caractérise l'être humain, qui fait que c'est évidemment un être historique. Et perfectibilité veut dire histoire, et l'histoire peut être catastrophique, et c'est ce que Rousseau montre, mais là, il marque une différence qui se reflète justement dans notre perception des hommes et des bêtes.
Tout à fait, mais ce n'est pas le chien qui reconnaît par exemple 1000 mots. C'est un chien, c'est le chien chasseur qui reconnaît 1000 mots. De la même manière que tout le monde ne court pas le 100 mètres en moins de 10 mots, il y a des chiens qui ont des performances intellectuelles extrêmement différentes. On s'aperçoit maintenant de l'énorme différence individuelle dans la même espèce ou dans le même groupe. Parce qu'il faut penser aussi les espèces en termes de groupe. Un chien occidental de la fin du XXe siècle n'a rien à voir avec un chien africain ou avec un chien du XIXe siècle, par exemple. Donc il faut penser vraiment la diversité, à la fois dans l'espace et dans le temps, comme on l'a fait d'ailleurs pour les hommes depuis très longtemps. Et cette idée de distinction que l'on retrouve chez Rousseau, elle est propre à l'humanité occidentale. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, en primatologie, lorsque les primatologues occidentaux écrivent, ils ont toujours dans la tête la question subsidiaire, mais qui est fondamentale, de la distinction entre l'homme et l'animal. Toujours, même des gens très favorables, par exemple comme Franz de Waal, qui est très favorable aux chimpanzés, qui a l'esprit ouvert, a toujours derrière l'idée de la différence. Prenez les primatologues japonais, jamais. La question n'intervient absolument pas. Les hommes sont des hommes, les chimpanzés sont des chimpanzés. Et pourquoi à tout prix établir une distinction et souvent une hiérarchie? Et là, on est vraiment pris dans notre vision occidentale des choses.
Je crois que j'irai dans le même sens que Éric Baratet. Je crois qu'il faut sortir de l'ontologie et aborder le problème en termes méthodologiques. Et c'est ce qu'a fait Éric Baratet dans tous ses travaux. C'est-à-dire que l'anthropomorphisme n'est pas, sous la plume d'Éric Baratet, quelque chose de sentimental et de bébête. C'est une méthode. C'est une méthode de l'empathie. C'est une méthode de perception du ressenti de tel animal, pas des animaux en général, pas de telle espèce, mais de tel animal. Dans le ressenti de tel animal, il y a énormément d'éléments qui sont liés à son espèce, bien entendu.
Ah, quand même.
Bien entendu. Et tu restes dans vos pages admirables sur le taureau isléro. Vous parlez beaucoup de l'espèce, taureau d'élevage. Donc, cette question de la méthodologie me semble fondamentale. Parce que c'est ça, c'est la méthode qui permet précisément d'avoir accès aux individus et qui permet de pénétrer quelque chose en rapport. Moi, j'aime pas du tout le mot de ressenti, mais il est indispensable.
En non, l'occurrence, plus, j'aime pas trop souvent. J'ai un peu sursauté, je dois
mais
dire.
Mais Éric Baratel l'emploie, et c'est exactement ça qu'il convient de dire quand on parle des représentations, des perceptions, des émotions de l'animal.
Bien, alors, justement, venons-en à votre travail dans ce qu'il a de très audacieux, Éric Baratet. Nous parlerons tout à l'heure du taureau Islero, celui qui a mortellement blessé, en 1947, je crois, Manolete, le plus célèbre avec Dominguín, torero de l'époque. Mais réservons un moment particulier à la discussion sur cet épisode, la manière dont vous le racontez, et la corrida en général. Mais pour bien fixer l'enjeu de votre travail, je reviendrai une seconde à Hannah Arendt, puisque le mot vie, elle dit que il se dit de deux manières en grec, zoé et bios. Et zoé, c'est le, dans la définition qu'elle en donne, le processus biologique de l'organisme vivant, le mouvement cyclique des fonctions corporelles, qui nous place d'ailleurs, nous, tous les êtres vivants, dans le cycle universel de la nature, dans lequel il n'y a ni commencement ni fin, où toutes les choses se répètent dans un mouvement éternel, dans un balancement, pardon, éternel et immuable. Donc elle dit, du point de vue de Zoé, l'éternel retour est le principe suprême de l'être. Mais la vie, c'est bios. Et c'est-à-dire l'intervalle entre la naissance et la mort, et elle dit ça, c'est spécifiquement humain, c'est-à-dire cet intervalle est rempli d'événements qui, à la fin, peuvent être racontés. Donc, à la question « qui ?», l'homme répond, selon Hannah Arendt, en racontant une histoire. Son identité n'est pas substantielle, c'est, pour reprendre l'expression de Ricoeur, une identité narrative. Eh bien, vous dites non, pas forcément. Il peut y avoir des biographies animales. Voilà. Vous élargissez à l'animal la notion de bios. Vous sortez l'animal, justement, ou certains animaux, de l'enfermement dans Zoé. Alors, parlons-en, et parlons d'abord, c'est le premier chapitre de votre livre, et je le trouve très intéressant, très émouvant, très beau, la girafe de Charles X. Que s'est-il passé? Qui est cette girafe? Et racontez-nous son histoire.
Alors, c'est une girafe qui a été offerte au roi Charles X par le pacha d'Égypte. C'est un cadeau diplomatique, comme il s'en fait depuis très longtemps. Et cette girafe donc traverse en bateau la Méditerranée, arrive à Marseille. Elle séjourne à Marseille entre l'automne 1826 et le printemps 1827. Et puis en juin-juillet, eh bien, elle part à Sabot avec toute une escorte. Elle remonte la vallée du Rhône, elle franchit le Morvan, puis le bassin parisien. Elle va comme ça à Paris. À pied. Et ce défilé, si on peut dire, de la girafe et de ses accompagnants déclenche une véritable agitation dans toute la France et dans toute l'Europe.
Était-ce la première fois que les Européens voyaient une girafe?
Exactement. Et depuis très longtemps, sans doute, l'Empire romain. Autrement dit, ça déclenche le même engouement que si l'on promenait un extraterrestre de nos jours dans Paris. On se précipiterait tous, et c'est exactement ce qui se passe. Et alors l'histoire a été depuis longtemps racontée du côté humain, puisque du côté humain, ça entraîne un véritable engouement. Les dames se coiffent à la girafe, on s'habille à la girafe, on danse à la girafe, etc. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir ce qui se passe du côté de l'animal. Et alors on trouve des textes, quand on veut chercher, on peut trouver. J'ai trouvé des textes de naturalistes relativement ouverts qui ont observé cette girafe. Et donc on trouve des indices sur son comportement, des indices que je croise avec le savoir sur les girafes actuelles, le savoir éthologique actuel. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et finalement, on se rend compte qu'on est devant une véritable rencontre entre deux mondes. Le monde de la girafe, qui arrive en tant qu'individu, mais aussi en tant que représentante d'une espèce.
Quand même.
Et représentant des animaux exotiques. Il y a une triple apparence. Et puis, de l'autre côté, les Marseillais, mais représentant aussi les hommes, les Occidentaux, etc., d'une époque. Et on voit bien comment on est devant vraiment une rencontre avec son lot d'incompréhension, d'ajustement, d'interaction. Et on voit que cette girafe est évidemment très stressée lorsqu'elle débarque à Marseille. Mais les Marseillais aussi, ils ont peur. Il y a une rumeur d'un immense monstre qui arriverait à Marseille. Donc, il y a une peur réciproque. On la promène dans les rues. Donc, il faut que les uns et les autres s'adaptent. Et on voit bien comment, petit à petit, cette girafe passe d'un très fort stress, puisqu'elle n'adopte par exemple jamais le sommeil en position couchée lorsqu'elle est dans son écurie. On sait maintenant que c'est un signe de stress extrêmement important. Donc elle passe de ce stress à petit à petit une adaptation, mais avec beaucoup d'incompréhensions, des incompréhensions par exemple sur l'alimentation. On l'amène dans un pré parce que les prés sont très rares à l'époque. Une vache de l'époque se damnerait pour être dans un pré. Et elle, elle ne veut pas de l'herbe. Alors on ne comprend pas. Donc après on lui offre des fruits africains, puisqu'elle est africaine. Elle n'en veut pas non plus. Et on s'aperçoit qu'elle aime au contraire le thuya, l'acacia, le robinier, que tout le monde pense comme des arbres de dernière catégorie, très âpres, très amers. Et donc il y a des, comme ça des ajustements petit à petit réciproques.
Ce que j'ai trouvé très émouvant dans cette histoire, c'est ce que vous racontez de la grégarité spécifique des girafes, et elle réussit à surmonter son stress quand elle est entourée d'autres animaux grégaires, comme les moutons, les chevaux, les vaches. Et vous dites que ces animaux lui sont nécessaires pour survivre, pour s'adapter, sans rompre totalement avec son expérience initiale dans la savane, où la grégarité instable des groupes de girafes et le mélange avec des espèces, des zèbres aux antilopes, font que les autres animaux sont bien acceptés, même recherchés, notamment par les femelles. Et vous dites aussi que dans son long périple vers Paris, elle s'applique à suivre les vaches laitières, placées devant par les hommes, qui ont reçu justement la leçon d'entrer en ville à Marseille, parce qu'elle obéit à leur direction, elle éprouve une forte affinité avec ces ruminants placides qui appartiennent comme elle à la famille des bovidés. Et je me souviens, moi, d'une visite que j'avais faite dans un grand parc d'Afrique du Sud. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est de voir justement des animaux, tous des proies en réalité, et que la peur du prédateur, sans doute, réunissait ensemble, donc vaches, zèbres et antilopes, qui faisaient le guet, en quelque sorte, les uns pour les autres. Et cette espèce d'amitié interspécifique m'avait beaucoup ému, et finalement, c'est aussi ce que vous racontez dans cet épisode, Éric Barraquet.
Exactement, et c'est ce qui vraiment lui permet de survivre, puisque au moment où elle-même est envoyée en France, le pacha d'Égypte envoie une girafe en Autriche pour l'empereur d'Autriche, et une autre en Angleterre. Ces deux autres girafes meurent, parce qu'il n'y a pas ces vaches qui les accompagnent et qui l'aident à tenir.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode?
Vive la France.
Comment?
Vive la France.
Vive la France.
Et moi, ce que j'ai énormément aimé dans le livre d'Éric Barraquet, c'est qu'on a affaire au concret. En tant que philosophe, je suis profondément privé du concret. Je suis condamné à l'ontologie et à la méthodologie, peut-être, mais ces situations concrètes, les philosophes contemporains, certains philosophes contemporains ont découvert que les animaux n'avaient pas seulement des vies, n'étaient pas des seulement vivants, mais des existants. Mais ça reste tout de même très abstrait. Et ces existants dont parle Éric Barraquet, ces chiens, ces singes, cette girafe, ben ce sont des êtres concrets qui ont une histoire. Et comment Éric Barraquet s'y prend-il pour raconter ces histoires, pour raconter ce ressenti? Eh bien, il s'appuie sur des documents de toutes sortes. D'abord, comme il est historien, et un très grand historien, professeur à l'Université de Lyon, il a des archives. Mais il n'y a pas que les archives. Il recourt à des données zoologiques, à des données éthologiques, à des données sociologiques. Et avec toutes ces données, toutes ces informations, il construit le concret d'un récit. Et c'est ça que je trouve absolument prodigieux, c'est que on a ce concret, on a ce récit, il raconte des histoires, mais ces histoires sont extraordinairement informées. Elles sont plausibles,
elles sont
crédibles,
mais
sont vraies.
Elles sont vraies, absolument. Mais j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure, cette différence entre les hommes et les animaux. Vive la France, avez-vous dit, Elisabeth? Oui, parce que finalement, cette girafe a survécu en France. Mais tout ce que vous en racontez, Éric Barraquet, en fait quand même la représentante d'une espèce. C'est-à-dire qu'elle réagit en tant que girafe. Et jamais on peut se dire, non, en tant que tel individu distincte d'une autre girafe. Elle est individualisée par ceux qui la voient, parce qu'ils n'ont jamais vu animal aussi extraordinaire, c'est pour eux l'équivalent d'un martien, mais voilà, toute autre girafe aurait eu besoin aussi de cet accompagnement par des moutons, des vaches, pour se calmer. Donc, nous sommes quand même dans cette situation-là, la différence de l'homme et de l'animal, bien que vous racontiez sa vie spécifique, se voit à travers, justement, ce simple fait. Cette girafe, c'est n'importe quelle girafe, en réalité.
Non. Non,
non. Eric Barthé,
non, parce que, alors, évidemment, c'est un individu qui vit dans un cadre biologique déterminé qui est celui de l'espèce. Comme nous, nous vivons individuellement dans le cadre de notre espèce. Il n'empêche qu'il y a des caractéristiques individuelles, et notamment chez cette girafe, si elle survit, c'est aussi parce qu'elle a un caractère tout à fait particulier. Et ça, les cornacs égyptiens qui font la traversée avec elle et qui vont apprendre aux Français à s'en occuper vont très bien le dire. C'est une girafe qui, dès sa capture, ne sombre pas dans la dépression, qui a envie de s'amuser, qui a envie de jouer, qui a envie d'avoir des interactions avec des autres, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres girafes. Autrement dit, si elle survit, c'est pas simplement parce qu'elle est girafe et qu'elle est dans un cadre particulier, par exemple les vaches, etc. Bien sûr, ça joue. Mais il y a aussi, on pourrait dire, le caractère individuel qui est très important. Elle ne sombre pas dans la dépression. Elle a envie, au contraire, de contact. Et c'est ce qui fait qu'elle peut s'adapter, elle peut s'ajuster. Au milieu de tous les incompréhensions, les erreurs, etc., elle arrive à faire ça. Alors que beaucoup d'autres ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique des animaux de cette biographie, de ce livre, c'est que souvent, ce sont des animaux entre guillemets extraordinaires, c'est-à-dire qu'ont vraiment une personnalité peu commune. On le voit avec le chimpanzé consul, etc. Et ça montre bien qu'on n'est pas que devant une représentante d'une espèce. Elle représente une espèce, comme nous représentons, je représente les hommes, et en même temps, j'ai toute ma singularité.
Ah, vous pensez que cette distinction qu'on veut faire entre l'animal chez lequel l'instinct est prioritaire et l'homme qui est un être de liberté est une distinction qu'il faut pouvoir dépasser?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, je pense que ça n'enlève rien à la richesse, à la spécificité de l'humanité. Dire cela, c'est absolument pas vouloir ravaler l'humanité. Je pense qu'il faut vraiment penser maintenant en termes de diversité, de spécificité, de richesse. Chaque espèce a sa richesse. Et un homme n'est pas un cheval n'est pas un homme, un cheval n'est pas un chien. Et je pense qu'il faudrait vraiment adopter la vision japonaise où justement ils n'ont pas peur de regarder les autres animaux avec générosité. Et pour eux, les regarder avec générosité, ça ne veut pas dire enlever quelque chose à l'humanité.
Est-ce que vous iriez jusque-là, Elisabeth?
Bien entendu. Ouais. Bien entendu.
Vous dites vous-même que...
La seule chose qui est une évidence, c'est que ces animaux ne racontent pas eux-mêmes leur histoire. Ils ont une histoire, ils ne racontent pas eux-mêmes leur histoire. Ça, c'est une différence évidente. Mais une fois que ceci est dit... reconnaître que ces animaux, que cette opposition entre l'instinct et la liberté est une opposition qui n'a plus aucun sens compte tenu des travaux de l'éthologie qui ont fait des découvertes. Enfin, c'est pas par hasard si on a pu parler de la quatrième blessure narcissique de l'humanité en parlant de l'éthologie. Voilà, je crois qu'on ne peut plus du tout...
Mais vous dites vous-même quand même, notamment dans Les animaux aussi ont des droits, Elisabeth de Fontenay, que... c'est l'homme qui est un être historique, c'est l'homme qui entre dans l'histoire, mais précisément parce qu'il n'est pas soumis au principe de répétition. Donc il y a bien cette différence-là qu'il faut prendre en compte, quand bien même on comblerait une différence peut-être trop abyssale entre l'homme et les animaux. Elisabeth de Fontenay.
Que les hommes aient une histoire, qu'on ne doive pas les naturaliser. Moi, ce que j'ai mis en cause, c'est la naturalisation de l'histoire humaine, faite par un certain nombre de gens extrêmement suspects politiquement. Mais cette opposition, encore une fois, entre la liberté et l'instinct, me semble complètement dépassée. Elle est d'ordre ontologique. Et les méthodes des sciences sociales, et en particulier des sciences tout court, ont complètement battu en brèche cette opposition sommaire entre
opposition,
les biens.
Oui. Opposition sommaire, dites-vous. Mais alors, je voudrais renverser les choses, parce que il y a des biographies animales qui ont été écrites d'ailleurs par des écrivains aussi. Vous citez Thomas Mann, j'ai apporté Vie du chien Orla de Renaud Camus, mais il y a aussi des écrivains qui inventent des personnages animaux. Et je pense à Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être, ce personnage extraordinaire de Karénine. Mais là, c'est très intéressant parce que c'est un personnage à part entière, ce chien, Karénine, et en même temps, il obéit quand même à la loi de l'animalité, mais qui est retournée en sa faveur par Kundera. Parce qu'il dit, il parle de l'idylle, il dit que l'idylle est l'image qui est restée en nous comme un souvenir du paradis. La vie au paradis ne ressemblait pas à la course en ligne droite qui nous mène dans l'inconnu, ce n'était pas une aventure, elle se déplaçait en cercle entre des choses connues, sa monotonie n'était pas ennui, mais bonheur. Et l'animal, lui, dit Kundera, n'a pas été chassé du paradis. Donc, nous gardons à travers lui, nous pouvons exprimer, ressentir cette nostalgie de l'idylle. Parce que lui est soumis au principe de répétition, et de la répétition, il ne souffre pas. Et je vous cite cette phrase. « Si Karénine avait été un être humain au lieu d'être un chien, il aurait certainement dit depuis longtemps à Teresa, « Écoute, ça ne m'amuse plus de porter jour après jour un croissant dans la gueule, tu ne peux pas me trouver quelque chose de nouveau. » Il y a dans cette phrase toute la condamnation de l'homme. Le temps humain ne tourne pas en cercle mais avance en ligne droite, c'est pourquoi l'homme ne peut être heureux, puisque le bonheur est désir de répétition. Le bonheur est désir de répétition. Donc, il reprend un peu la distinction Zoé-Bios, mais d'une certaine manière, il la retourne presque en faveur de l'animal, cette espèce d'éternel retour qui est l'image qui nous reste du paradis. Alors, je laisse tomber la distinction instinct-liberté, mais là, quand même, la différence de l'homme et de l'animal est repensée par quelqu'un qui choisit pourtant de faire d'un chien spécifique, un personnage de son roman.
Oui, mais la répétition peut aussi comporter une histoire. On voit très bien que dans ces animaux soumis, finalement, que ce soit la girafe ou d'autres, ce sont des animaux soumis, effectivement, mais que derrière la soumission, la répétition d'une vie et d'une vie forcée par l'homme, on peut quand même avoir une histoire. Et inversement, il y a eu... C'est vrai que maintenant, nous pensons l'histoire de l'homme d'une manière linéaire. Nous pensons l'histoire comme un éternel temps en avant. Mais il y a eu des dizaines de générations, des centaines de générations qui ont pensé le temps d'une manière cyclique, d'une manière répétée. Les paysans du Moyen-Âge pensaient essentiellement le temps par des années qui reviennent, des saisons qui reviennent. Et l'idée d'histoire linéaire telle que nous l'avons développée en gros depuis le XVIIe, XVIIIe siècle ne leur vient pas à l'esprit. Beaucoup d'ailleurs ne savent par exemple même pas leur date de naissance, ne connaissent pas leur âge. Et donc cette distinction très forte que l'on met entre l'homme et l'animal, elle n'est pas si évidente que ça. Et alors pour revenir sur les biographies littéraires, c'est très intéressant parce que ces biographies littéraires mettant en scène des animaux, réels ou fictifs, apparaissent à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en France. Et on voit bien que ça va servir de réflexion pendant deux siècles, réflexion occidentale, sur la notion d'animal, d'individu, des réflexions qui, à l'époque, sont totalement interdites en philosophie, on ne peut pas penser l'animal comme ça, sont interdites en matière de religion, et interdites en matière scientifique, les zoologues pensent l'espèce, et donc, on voit très bien que ce sont les littéraires qui vont penser les individus. Les littéraires, et puis à la fin du XIXe siècle, les peintres. Quelqu'un comme Franz Marc au début du XXe siècle qui peint un tableau qui s'appelle « Voilà comment mon chien voit le monde », qui s'intéresse au point de vue animal et qui représente son chien au milieu du tableau avec un paysage totalement abstrait parce qu'il pense qu'on ne peut plus représenter le paysage comme nous on le voit. Il faut essayer de le représenter tel que l'animal le voit. Et donc ce travail littéraire a été extrêmement important pour nous amener à l'idée d'individu maintenant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des témoignages d'éthologues qui racontent comment ils ont été marqués par cette littérature de jeunesse, notamment « Lassie, chien fidèle », etc. Et que ça leur a permis d'ouvrir les yeux pour regarder autrement les animaux de nos jours et de trouver des choses qu'on n'aurait pas songé à trouver et à chercher il y a un siècle, par exemple.
Élisabeth de Fontenay.
Je voudrais revenir à cette opposition que vous faites, Alain Finkielkraut, entre, à la suite d'Aristote, entre Bios et Zoé. Bien sûr, les hommes sont plutôt du côté de Bios, plutôt du côté de l'histoire, parce que du côté du langage et du côté de la métaphore, de la capacité de la métaphore. Mais je crois que tout le progrès, que c'est un vrai progrès des sciences contemporaines et de l'éthologie en particulier, c'est d'avoir découvert à quel point ces animaux, espèces ou individus, qu'on les voit du point de vue de l'espèce ou du point de vue de l'individu, étaient les existants. Et ce qui en administre la preuve, et Éric Baratet en parle, c'est la dépression. La dépression, on n'est plus du tout dans la sphère de la répétition. Dans la dépression, c'est parce qu'il y a eu un événement. Ils ont été privés d'un compagnon, privés d'un maître, et ils sombrent dans cette espèce d'abattement où ils ne se nourrissent plus, où ils ne vivent presque plus. Et je trouve que là, on a affaire à une caractéristique commune aux animaux et aux hommes, et que cette caractéristique, encore une fois, met en cause cette distinction entre Bios et Zoé. Ce sont des existences, des existants animaux, au plein sens du terme, même s'ils n'ont pas de langage, même s'ils n'ont pas d'histoire, et ils ne sont pas tellement plus, peut-être, dans la répétition que nous-mêmes, Alain Finkielkraut. Freud a parlé de la compulsion de répétition. C'est quelque chose de fondamental chez nous. On peut dire que c'est un instinct de mort, mais c'était peut-être un peu facile. La compulsion de répétition est chose de fondamentale dans l'existence humaine. Donc, on ne peut pas opposer comme ça.
Oui,
la répétition.
La compulsion de répétition dont Freud parle, elle relève de la névrose. La répétition chez Karénine, c'est une modalité du bonheur. Donc c'est pour ça, on est plutôt dans l'univers de l'idylle, si j'en reste à Kundera.
Il y a aussi un certain plaisir dans la compulsion de répétition.
Oui, c'est vrai.
Peut-être que vous ne connaissez pas, mais...
C'est vrai. Bon, et là, je voudrais que nous continuions dans ces biographies animales et que nous abordions justement le chapitre peut-être le plus spectaculaire de votre livre, Éric Baratet, celui qui concerne le taureau Islero. Parce que cette corrida est très connue, même les non-spécialistes de la corrida sont au courant. Manolé était blessé mortellement, et vous réussissez ce prodige, cet exploit littéraire, de le raconter du point de vue du taureau. Alors ce taureau est un individu, Islero, auquel vous restituez toute son ampleur, que vous réhabilitez, parce que, évidemment, on lui en a beaucoup voulu de tuer Manolette. Et en même temps, c'est pour vous aussi, non pas le représentant d'une espèce, mais si j'ose dire, le représentant, le porte-parole d'une cause, celle des taureaux victimes de la cruauté des corridas. Alors dites-nous-en davantage.
Alors je l'ai choisi parce qu'il est évidemment célèbre, et puis parce que ce qui m'a amusé, c'est qu'on a très peu de documents sur cette corrida. C'était une corrida au fin fond de l'Espagne, très peu médiatisée. Et sur Islero, on a uniquement 12 photos, 12 photographies prises par le seul photographe présent. Il y a eu aussi, après la mort de Manolette, quelques témoignages de gens présents qui ont été publiés dans la presse, mais on a très peu de choses. Et ce qui m'a intéressé, c'est de reconstituer le vécu de ce taureau en m'aidant de ces 12 photographies qui m'ont servi de balise pour reconstituer sa corrida. Alors, comme vous l'avez dit, évidemment, c'est un représentant des taureaux de corrida, donc il faut s'appuyer aussi sur tout ce qu'on sait sur la corrida, comme je m'appuie aussi sur tout ce qu'on sait sur l'éthologie bovine. En cela, il est représentatif, évidemment, des bovins d'un côté et des bovins de corrida de l'autre. Mais en même temps, il est tout à fait particulier, cet animal. Et là, on retrouve la dimension, évidemment, individuelle. Et on voit très bien, alors sur Internet, vous en avez parlé, on le présente comme un taureau de 500 kilos, furieux, un monstre, etc., etc. En réalité, c'était un petit taureau de 300 kilos qui a montré, dès qu'il est rentré, qu'il n'avait pas envie de combattre. Et ça, le public l'a vu tout de suite, l'équipe l'a vu tout de suite. Donc ça, c'est aussi une dimension individuelle. Tous les taureaux n'ont pas la même réaction lorsqu'ils rentrent dans l'arène. Donc il n'a pas envie de combattre, il faut le forcer à charger. Et puis, autre particularité individuelle, si on peut dire, c'est qu'il est presbyte. Et l'équipe de Manolette s'en aperçoit tout de suite, puisque presbyte, ça veut dire que lorsqu'il charge et qu'il arrive près d'un obstacle, que ce soit un homme, le cheval, etc., il ne voit plus rien, donc il se met à taper dans tous les sens. Et ça en fait un taureau extrêmement dangereux. Puisque un bon taureau pour un torero, et pour l'équipe qui l'accompagne, c'est un taureau, comme disent les aficionados, un taureau franc, c'est-à-dire un taureau qui va tout droit, et dont on peut prédire le côté de l'encornage. Or, lui, il se met à taper dans tous les sens, donc si on est trop près de lui lorsqu'il se met à taper, ça devient extrêmement dangereux. Donc Manolette le voit tout de suite et va décider de le faire beaucoup châtier, à la fois par la profondeur des piques, à la fois par les banderilles, mais aussi en multipliant les passes pour l'épuiser. Et on voit bien par les photos et par les témoignages, on voit bien que ce taureau a vécu une corrida particulière, parce qu'il est lui-même un taureau particulier, avec toutes ces caractéristiques-là. Et au départ, il a peur, et puis face au coup, face à la douleur, face aux sollicitations, il rentre dans une phase de résistance. Et puis, cette phase de résistance, elle s'amenuise petit à petit, il tombe dans une phase d'épuisement, et qui va d'ailleurs introduire, et là on retrouve la dimension individuelle du taureau, ça va introduire une erreur d'appréciation de la part de Manolette. C'est-à-dire qu'on a une photo qui représente Manolette s'approchant du taureau et le tenant, prenant une de ses cornes par la main. Alors on sait par les témoignages que ça va entraîner un véritable délire dans le public, Manolette courageux qui touche le taureau dangereux, etc., etc. En fait, ce que veut faire Manolette, c'est vérifier si le taureau peut encore bouger. Et là, le Islero ne bouge pas. Et ça va induire une erreur d'appréciation de la part de Manolette, et on le voit très bien dans la célèbre photo de l'estocade. Croyant que le taureau ne va pas bouger, il fait une estocade très profonde et très lente, qui est donc très dangereuse, très douloureuse pour le taureau. Et le taureau va réagir, contrairement à ce que Manolette croit. Et Manolette a fait une faute professionnelle dans le sens où, au lieu d'avoir mis sa cape sur un côté pour entraîner la réaction du taureau sur ce côté, il a laissé sa cape devant lui, croyant là aussi que le taureau ne bougerait pas, et le taureau réagit et encorne Manolette. Donc en fait, cette corrida, elle ne se comprend bien que si on regarde l'individualité du taureau. Ce n'est pas un taureau lambda, c'est un taureau tout à fait particulier. Si ça avait été un autre taureau, peut-être que la corrida aurait été totalement différente.
Elisabeth de Fontenay,
moi, je suis tellement fascinée par le récit d'Éric Baratet, qui connaît très bien la question, puisqu'il a écrit un livre sur la corrida avec Elisabeth Ardouin-Fugier, il y a déjà un certain temps. Je suis absolument fascinée par ce récit et saisie par l'horreur de la cruauté, non pas de Manolette, mais de ses banderilles et de ses piques qui pénètrent profondément et qui rendent le taureau fou. Et puis aussi, j'étais extrêmement impressionnée par l'affêtage.
Oui, là.
L'affêtage.
L'affêtage, oui. Oui.
Parce que c'est au taureau qu'on va faire se battre. Donc, ils sont sensibles, ils sont extrêmement sensibles de leurs cornes. Donc, c'est vraiment les mettre dans une position où ils sont voués à la mort.
Alors, c'est justement là la question que je voudrais poser. Alors, j'ai déjà organisé une émission ici à Réplique avec Elisabeth de Fontenay et Francis Wolff sur la corrida, et je ne voudrais surtout pas déterrer la hache de guerre. Cette émission a eu lieu, mais je voudrais m'interroger, parce qu'en lisant votre livre, je me suis reporté à un dictionnaire de la tauromachie où la fétade est décrite. C'est une pratique qui consiste à raccourcir les cornes trop pointues, absolument interdite, mais fort répandue. Et dit l'auteur de cet article, l'affetado est surtout condamnable parce que c'est une manipulation qui porte atteinte à l'intégrité du taureau et qu'elle ne respecte pas l'éthique de la corrida, trop souvent attaquée par ailleurs. Donc voilà, c'est ma question, parce que je ne dirais pas que votre chapitre est militant. Il n'empêche qu'on sort de cette lecture très éprouvée, et c'est très bien d'ailleurs que nous regardions du point de vue du taureau, parce que quand on va à une corrida, c'est le courage du torero qui est extrêmement frappant. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que la pratique est généralisée? Est-ce que, au contraire, certains toreros font très attention à ce que le taureau qu'ils ont à combattre n'ait pas subi cette affectade, pour que le combat soit, dans leur esprit et selon l'éthique qui est la leur, loyal?
Alors, cette idée d'éthique loyale, c'est une idée d'aficionado assis tranquillement sur les gradins des arènes. C'est pas du tout l'idée des toreros. Les toreros n'ont pas du tout envie de mourir lorsqu'ils font une corrida. Et pourquoi va-t-on développer la affectade au milieu du XXe siècle? C'est parce qu'on invente justement, de Minguin, Manolette, etc., invente une corrida de près. C'est-à-dire où on doit être très près du taureau pour faire, comme ils disent, des danses avec lui, des jeux de cape, etc. Mais en ayant le taureau de près, évidemment, il devient très dangereux, beaucoup plus dangereux que dans l'ancienne corrida. Et donc, les toreros qui n'ont pas envie de mourir vont développer le sillage des cornes pour limiter justement la dangerosité. Donc finalement, cette pratique, elle est consubstantielle à la nouvelle corrida. On ne peut pas faire autrement. Alors, la fois, les condamnés par les aficionados parce qu'on trafique le taureau, et en même temps, elle est presque indispensable.
Mais vous pensez donc qu'elle est universelle? Moi, j'ai dit lors de cette émission que je n'avais assisté qu'à une seule feria, et je ne pense pas recommencer, mais c'était une expérience très surprenante, parce que j'y allais en traînant les pieds. C'était José Thomas à Nîmes, je crois, en 2011 ou 2012, et c'était un moment tout à fait exceptionnel. Et j'ai du mal à penser que ce torero, qui a été très souvent blessé, ait pu recourir à ce genre de subterfuge, étant donné précisément l'attitude qui est la sienne dans une corrida. C'est-à-dire que, malgré tout, évidemment, il s'agit pour lui de combattre et de tuer son adversaire, mais il s'agit de le faire, semble-t-il, dans les règles de l'art.
Donc, oui, mais l'affectade a été générale, non pas reconnue, toujours interdite, toujours condamnée, mais générale entre les années 40 et les années 90. Alors, les aficionados en parlent beaucoup depuis les années 90, la condamnent beaucoup, etc. Mais je dirais que cette pratique, c'est comme le dopage dans le cyclisme. On la condamne et en même temps, elle est toujours là. Alors, elle n'est pas forcément totalement répandue, mais on se rend compte qu'elle est encore largement là. Parce que, en fait, c'est presque une assurance sécurité pour le torero. Hein. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête qu'il, finalement, il y a trois corridas. La corrida du taureau, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, la corrida du torero et de son équipe, et il y a la corrida du public dans l'arène. Et ce sont trois corridas différentes qui se regroupent ou qui se recoupent à certains moments, mais qui peuvent être aussi totalement différentes.
Oui, enfin, je sursaute un peu quand vous parlez d'assurance sécurité, parce que les toreros sont malgré tout très exposés, quoi qu'on pense de la corrida, et sont, notamment pour le cas de José Thomas, souvent très gravement blessés. Mais je voudrais progresser dans la discussion, et il est vrai que je suis devenu sensible à la cause animale, notamment en lisant... en conversant avec Élisabeth de Fontenay, en lisant ses livres et Le silence des bêtes. Mais je fais une hiérarchie, si vous voulez, dans l'horreur. Pour moi, la modernité technicienne est plus terrible que certains restes archaïques des civilisations antérieures. Et ce que je n'aime pas dans l'hostilité ravageuse à la corrida, c'est la supériorité que les modernes peuvent s'accorder en disant qu'ils ont une sensibilité plus fine, parce que cette supériorité, cette sensibilité s'accommode de l'élevage industriel, et c'est à ça que je voudrais en venir. Parce que il me semble, si vous voulez, c'est le paradoxe de notre temps. On arrive à individualiser les animaux du fait de la généralisation des animaux de compagnie, je crois. Et vous montrez que c'est une une coutume venue de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui s'est répandue, qui a diffusé dans le reste de la société. Et nous avons des animaux de compagnie, ils ont des noms, nous les aimons, et nous apercevons à ce moment-là que les animaux sont des individus, qu'ils peuvent avoir des dépressions, comme l'a dit Elisabeth de Fontaine tout à l'heure. Mais ça, ça va de pair avec l'universalisation de l'élevage industriel, ou pour parler comme Jocelyne Porcher, de la production animale. C'est-à-dire des animaux qui ne sont même plus les représentants de leur espèce, mais qu'on transforme pour en faire des machines à produire, notamment les truies qui ne cessent d'avoir des grossesses, etc., grâce aux produits qu'on leur injecte. Alors, comment penser ce double phénomène, c'est-à-dire c'est cette double réalité, l'individualisation des animaux, du fait justement de lien qui est le nôtre avec les animaux de compagnie, et le traitement de plus en plus épouvantable de ce qu'on appelait autrefois les animaux de rente. Elisabeth de Fontenay.
Je considère que c'est sans rapport. C'est sans rapport. Et je voudrais bien que les partisans de la corrida s'engagent beaucoup plus contre l'élevage industriel qu'ils le font. Parce que je sais que c'est un argument de Francis Wolff. Les taureaux d'élevage pour la corrida sont heureux dans des prairies, alors que les vaches qu'on tue industriellement sont élevées dans des conditions absolument épouvantables. Oui, bien sûr, mais quand a-t-on vu des partisans déclarés de la corrida s'engager? Vous, Alain Finkielkraut, vous n'êtes pas un partisan déclaré de la corrida.
Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas un bon exemple. Mais quand a-t-on vu des partisans déclarés de la corrida s'engager énergiquement pour la cessation de l'élevage industriel et de l'abattage industriel?
Non, mais ma question est un peu différente. Comment se fait-il que nous autres modernes, nous ayons découvert, si vous voulez, l'individualité de l'animal à travers l'animal de compagnie, et que nous nous accommodions quand même de la production animale par ailleurs, pour ce qui est justement des bovidés, ou même des vaches laitières devenues, et nous en parlerons peut-être quelques minutes, spécialistes et ayant des périodes d'allaitement quasi continues grâce aux manipulations dont elles font l'objet.
Mais je pense que c'est la consommation de viande. Et que je pense que la bonne réaction, ça n'est pas la mienne, mais la bonne réaction à cela, c'est le végétarisme. Il y a un besoin fabriqué de manger de la viande qui fait qu'on ne voit plus, ce qui est mis en place pour nous faire manger de la viande. Donc ces abattoirs, ces élevages, insupportables. Je crois que nous sommes aveuglés par le fait que nous sommes des carnivores. Et là, je ne voudrais pas aller dans le sens de Franz Burka, mais enfin, elle a quand même écrit des choses essentielles sur cette question, et c'est ça le fond du problème.
Éric Baratet, comment vous expliquez-vous ce paradoxe ?
Deux choses. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'archaïsme de la corrida et la modernité de l'élevage industriel, étant donné que la corrida est un phénomène assez récent. Elle est formalisée au XIXe siècle, et même la corrida actuelle, la corrida moderne, elle est créée au milieu du XXe siècle. Donc c'est tout à fait récent. Et elle est créée au moment où on crée l'élevage industriel. D'ailleurs, la corrida en France est autorisée en 1951, au moment où on développe l'élevage industriel. Et puis, deuxième chose, sur cette dichotomie, d'un côté, on a effectivement cette individualisation des animaux et qui commence par les animaux de compagnie. Et là, on voit bien l'influence de Locke, de Rousseau, de tout le romantisme, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est toute la tradition cartésienne de l'animal-machine qui est très reprise au XIXe siècle par les zootechniciens qui vont parler du cheval-moteur, de l'animal-moteur, et on va aboutir à l'élevage industriel. Donc c'est deux tendances différentes, mais je dirais que maintenant, on est en train de voir actuellement une prise en compte croissante des animaux de ferme, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à peu. Avec des phénomènes de sensibilité. Regardez le scandale sur les abattoirs il y a 40 ou 50 ans. On aurait passé les mêmes vidéos, ça n'aurait pas déclenché le même scandale. On voit bien qu'on commence à être sensible aux animaux de rente, aux animaux d'élevage.
Jusqu'où peut aller cette sensibilité? Parce que dans votre autre livre, Le point de vue animal, Éric Baratet, vous parlez de la conversion laitière qui consiste à faire en sorte que les vaches allongent leur période de lactation. Donc, ça devient, les vaches deviennent des usines à lait. Alors, peut-on revenir à une forme d'élevage où il y aurait peut-être moins de vaches à viande, si on mangeait moins de viande, et des vaches laitières qui ne soient plus tout à fait des usines à lait, parce que les partisans de vegan vont de la nourriture vegan vont très loin, et on a du mal à imaginer ce que deviendraient les animaux de ferme si précisément ils ne servaient ni à produire de la viande ni à produire du lait. Ils y réfléchissent, mais ils n'ont pas trouvé de solution tout à fait satisfaisante. Donc est-ce qu'on peut revenir à une forme plus modérée du rapport d'utilité que nous avons avec les animaux de rente? Est-ce qu'on peut rêver d'aller dans ce sens?
Oui, moi je crois par le sillage de l'élevage bio, ce qu'on appelle l'élevage bio, je pense qu'on pourra avoir un élevage où la rentabilité, le rendement animal est moins fort. Et puis, on peut aussi penser les animaux d'élevage d'une autre manière. Les vaches, par exemple, on pourrait très bien les transformer en vaches de loisirs. Nous avons bien transformé nos chevaux, bêtes de somme, en chevaux de loisirs. On les voit maintenant, il y a des gens qui ont des champs, qui achètent un champ pour mettre un cheval et avoir le plaisir de le regarder manger de l'herbe. Pourquoi ne pas faire ça pour nos vaches?
Vous y croyez, Elisabeth de Fontenay, pour terminer?
C'est un idéal, c'est une utopie.
Une utopie,
à mon avis. Mais,
une idylle.
Oui.
Est-ce que vous pensez justement à une modération de l'élevage fermier?
La question de savoir si on est pour ou contre l'élevage et l'abattage à la ferme. Et Florence Burgat, justement, est très, très contre. Parce qu'elle dit que ce sera des comportements de mâle. Le grand-père confiera ça à son petit-fils. Et l'égorgement de l'animal à la ferme, ce sera une horreur. Donc, elle est tout à fait contre cela. Mais moi, je pense que aller dans cette direction de l'élevage et l'abattage à la ferme, ce serait tout de même un progrès. Ce serait une transition.
Et peut-être que dans cette situation, les vaches perdraient leur numéro et retrouveraient un nom. Hein, voilà, parce qu'elles ont été des individus.
Bien sûr.
A bien existé des vaches qui s'appelaient Marguerite. Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay. Merci, Éric Baratet. Je rappelle, Éric Baratet, le titre de votre dernier livre, Biographies animales. Et puis, je signale aussi que Bêtes des tranchées, un ouvrage dont nous avons parlé, va être republié en poche aux éditions CNRS au mois de septembre, c'est cela. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'esprit de la Ve République ». Mes invités seront Jean-Claude Casanova et Philippe Reynaud. C'était « Réplique », une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Pascal Mons. À la technique aujourd'hui, Jean-Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.